Et nous allons passer présentement à la chronique vélo. J'ai le plaisir d'accueillir Magali Bebron en studio. Magali, tu es directrice des programmes chez Vélo Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement Vélo Québec, il faut savoir que c'est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l'utilisation de la bicyclette à plusieurs niveaux. Puis aujourd'hui, justement, on va découvrir ensemble, voir, comprendre peut-être la vision vélo 2023-2027 qui a été présentée par la Ville de Montréal assez récemment.
Bonjour David. on est en automne, c'est le dernier jour de Bixi. On pourrait penser que la saison du vélo tire à sa fin pour beaucoup de Montréalais et Montréalaises. Et pourtant, la Ville de Montréal a procédé à l'annonce de sa vision vélo 2023-2027 le 1er novembre dernier.
Mais est-ce que tu sais en fait pourquoi on procède à ce temps-ci de l'année à cette vision? Parce que c'est un temps particulier.
Habituellement, la Ville de Montréal annonce sa programmation vélo annuelle au début du printemps, alors que plusieurs personnes se remettent au vélo. C'est ce qu'elle a fait en mai dernier en annonçant le développement ou la mise à niveau de quelques 35 km de voies cyclables au cours de l'année à venir pour un coût de 17 millions de dollars. Il faut savoir que les chiffres de nombre de kilomètres tout seul, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose parce qu'un kilomètre de chaussée désignée, quand on a juste des petits symboles au sol qui ne nous réservent pas vraiment d'espace, ou même un kilomètre de bande cyclable, ça c'est quand on peint un trait sur la route pour délimiter un espace, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un kilomètre de piste cyclable séparée de la circulation, par exemple ce qu'on voit sur le réseau express vélo.
Avec une protection là, dans le fond.
Exactement. Toujours est-il qu'en mai dernier, quand la ville a annoncé sa programmation pour l'année, plusieurs groupes ont exprimé leur déception. Après tout, l'administration Plante a été élue il y a 5 ans avec la promesse de développer un réseau express vélo qui comprendrait 17 axes et 180 km de voies. Pour l'instant, c'est 5 axes qui ont vu le jour, parfois en partie. Et en mai, donc, on annonçait le prolongement du rêve sur Vigée-Saint-Antoine-Saint-Jacques dans le sud-ouest et le début d'un nouvel axe sur Henri-Bourassa dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, ce que demandaient les groupes comme Vélo Québec et les associations de mobilité active des différents arrondissements montréalais, c'était d'avoir une meilleure idée de ce qui s'en venait, de comment on allait se rendre à ces objectifs-là avec une certaine prévisibilité. Donc, la ville est retournée faire ses devoirs et il y a 2 semaines, elle a présenté sa vision 2023-2027.
OK, fait que là, c'est sûr, on a la vision maintenant, mais dans tes mots, pourrais-tu nous dire c'est quoi qu'on retrouve dans cette vision-là, maintenant que ça a été expliqué un petit peu?
En quelques chiffres, en fait, la vision pour les 5 prochaines années, c'est 200 km de voies cyclables qui s'ajouteront aux presque 890 du réseau cyclable actuel à Montréal. Ce qui est assez particulier, c'est que la ville a placé cette annonce sous le signe de l'équité territoriale en proposant des projets dans 17 des 19 arrondissements.
OK. Puis peut-être comme moi, il y a des auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement le terme, là, mais qu'est-ce qu'on entend par équité territoriale?
L'équité territoriale, ça vient répondre à un constat qu'on fait souvent et qui a été confirmé en fait pas plus tard que le mois dernier par une étude du groupe Interact de l'Université de Montréal. C'est que les voies cyclables ne sont pas réparties équitablement dans nos milieux de vie. Il suffit de regarder une carte des voies cyclables de Montréal pour constater que le réseau est particulièrement dense dans les quartiers bien nantis comme le Plateau ou Rosemont, mais qu'on a affaire à de véritables déserts cyclables quand on se penche sur des quartiers plus défavorisés comme Saint-Michel ou Montréal-Nord, où aucune nouvelle piste cyclable n'a vu le jour depuis 20 ans. Alors, l'équité territoriale... c'est fou de penser ça.
Ouais.
Donc, c'est ça, l'équité territoriale, c'est de répondre à ça et de s'assurer de développer le réseau cyclable dans les quartiers qui ont justement moins d'options de mobilité. Parce que souvent, c'est ces mêmes quartiers-là qui non seulement sont mal desservis en matière d'infrastructures vélo, mais aussi en matière de transport collectif structurant comme le métro ou d'accès à des flottes de véhicules partagés qu'on pense à Communauto ou à Bixi. Et tout ça, ça répond aussi aux recommandations de la Direction de santé publique de Montréal, qui était présente d'ailleurs à l'annonce en la personne de la docteure Mylène Drouin, qu'on connaît bien maintenant. Docteur Drouin a en effet rappelé que dans son analyse des impacts en santé du réseau express vélo, la santé publique a recommandé que les quartiers excentrés soient particulièrement priorisés pour le développement de nouveaux axes cyclables de type REV.
OK. Mais maintenant, on comprend bien comme le principe justement de l'équité territoriale. Mais là, on a parlé tantôt qu'il y avait juste 17 des 19 arrondissements qui allaient bénéficier en fait de projets. Ce seraient lesquels qui manquent?
Les deux seuls qui manquent à l'appel, en fait, c'est l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, ce qu'on peut un peu comprendre parce que vu la nature de l'île, là, pour ceux qui
sont
allés.
Oui, ils sont un petit peu dans...
Voilà. Mais on a aussi l'arrondissement d'Anjou, et ça, c'est un petit peu plus difficile à justifier. Anjou, comme Saint-Léonard d'ailleurs, a à peu près aucun réseau cyclable, donc il y a un énorme retard à rattraper. Or, ce qu'on comprend dans la façon dont la ville a présenté le plan, c'est que c'est le fruit d'un travail de collaboration avec les arrondissements et leurs propres demandes. Okay. Donc, ça peut laisser penser que des arrondissements comme Anjou manquent peut-être un peu de vision et d'initiative pour développer le vélo comme mode de déplacement, puis ça, c'est bien dommage. Ce qui est encourageant, par contre, c'est que les axes qui ont été présentés dans cette vision semblent donc faire l'objet d'un consensus entre la ville-centre et les arrondissements, ce qui devrait faciliter la concrétisation sur le terrain.
Ce qui devrait plaire aussi à la population, ultimement. Mais justement, dans les axes qui ont été annoncés, ça serait lesquels, en fait, qu'on pourrait nommer?
Il y a dans cette programmation, il y a des axes vraiment intéressants et structurants. D'ailleurs, au moment de l'annonce qui se déroulait à Montréal-Nord, en présence de groupes citoyens locaux, des cris de joie ont retenti quand on a annoncé qu'un axe vélo sécurisé verrait le jour sur le boulevard Maurice-Duplessis. Dans cet arrondissement, je disais un peu plus tôt, tous les projets vélos proposés dans les dernières années ont échoué. Le plus récent, c'était un projet de piste cyclable sur le boulevard industriel. Ça aurait créé un lien cyclable est-ouest vraiment structurant, mais ça s'est buté à une résistance tellement farouche des entreprises du coin que...
Ça n'a pas vu le jour.
Ça n'a pas vu le jour. Bref. Dans les autres axes annoncés, dans l'Est, on peut noter par exemple l'Accordaire qui accueillerait d'ici 2027 un réseau express vélo et aussi le boulevard Saint-Jean-Baptiste qui relierait Rivière-des-Prairies à Pointe-aux-Trembles. Dans l'Ouest, on peut parler du rêve qui verra le jour sur Côte-de-Liesse ou de deux véloroutes qui suivront en fait les installations du réseau express métropolitain, à ne pas confondre avec le réseau vélo. Donc ça, c'est vraiment le transport collectif, le REM de l'Est, dans les branches qui vont vers Deux-Montagne et vers Sainte-Anne-de-Bellevue.
OK.
Au nord, on continuera à développer le rêve Henri Bourassa vers l'ouest pour qu'il aille de l'arrondissement Saint-Laurent jusqu'à la Cordère. Puis dans le sud-ouest, par exemple, vers La Salle, on aura un bel axe structurant sur le boulevard Newman qui se poursuivra sur Jolicoeur, les 4e et 5e avenues.
Okay.
Les quartiers un peu plus centraux, ils auront eux aussi des projets intéressants. Puis un de ceux qui a causé le plus de surprises et d'enthousiasme, c'est un rêve qui est proposé sur Jean Talon. Dans un premier temps, on nous explique qu'un tronçon sera développé depuis le rêve Saint-Denis vers l'est pour rejoindre la station Canora du futur REM.
Okay. OK.
Puis plus tard, un deuxième tronçon partira vers l'ouest, cette fois pour rejoindre la Cordère. Et c'est ce qui est prometteur aussi avec ce plan, c'est qu'il met en connexion le réseau cyclable et le réseau de transport collectif pour favoriser l'intermodalité et la complémentarité des modes durables. Donc ça, c'est une excellente chose.
Comme ça, on peut laisser vraiment la voiture de côté.
C'est ça, on peut prendre son vélo, se rendre à une station et continuer. Je ne pourrais pas faire la liste complète des projets qui sont promis d'ici 2027 parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on vient ajouter des chaînons manquants dans le réseau cyclable actuel qui ne sont parfois pas de grande distance, mais qui vont vraiment faire une belle différence.
Puis quand tu parles de chaînons manquants, là, on a vu les gros axes, mais est-ce que tu aurais des exemples de petits chaînons manquants?
Ben, par exemple, il y a un petit lien qui prolongera la piste cyclable de la rue Côte-Sainte-Catherine et qui sécurisera l'intersection des avenues du Parc et Mont-Royal. Ça, c'est une promesse qui avait été faite par l'administration du plateau suite au décès d'Andrea Rovere en septembre 2021.
Okay.
On a aussi un petit lien sur la rue Wellington entre Verdun et le centre-ville, au-dessus du canal Lachine. Là aussi, on a un historique de décès, celui de Christian Brulotte, qui était mort en 2013. Ces deux exemples, ça montre vraiment quelque chose qu'on répète souvent, c'est qu'un trajet vélo n'est jamais aussi sécuritaire que son lien le plus faible. Donc, ces petits liens-là, ils font parfois quelques centaines de mètres, mais ils désenclavent complètement des secteurs, des quartiers. Et il faut saluer ça parce que ce sont des liens qui, techniquement, sont plus difficiles à faire, mais qui font vraiment office de véritables verrous pour les déplacements actifs.
Tu peux faire la différence, là, réellement.
Exact.
Mais là, justement, on parlait de 200 km de réseau cyclable. Puis on parlait aussi tantôt de bons kilomètres. Est-ce qu'on peut considérer que le projet Vision qui va être mis en place, c'est des bons kilomètres?
Ben vraiment, vraiment. En fait, ces axes-là qui ont été choisis, ils vont tous être dotés de voies cyclables physiquement protégées de la circulation. Ça, c'est le plus haut standard. Souvent sur des artères, ils vont offrir des axes de déplacement directs, efficaces, reliés au transport collectif. Ils vont, on l'a vu, relier des bouts existants du réseau cyclable. Donc, tout ça, c'est extrêmement positif. Mais pour conclure, on va se le dire, le défi maintenant pour la ville, ça va vraiment être de livrer la marchandise. Parce qu'avec ce plan-là, on a créé des attentes. Et on va avoir le goût dans la communauté cycliste que ça se concrétise plutôt que tard.
Je peux comprendre. Fait que je pense que tout le monde qui entend ça, autant que chez Vélo Québec, on espère voir la réalisation du projet, mais maintenant, tout est dans les mains de la ville.
Exactement.
Bien, écoute, Magali, je te remercie beaucoup pour ton passage.